Cher papa, chère maman, la colo se passe très bien. Le camp à Glomel est très bien et on fait plein d'activités très bien. Hier, on a été visiter un endroit incroyable. C'était comme un décor de film d'extraterrestre, mais en vrai. C'est ultra grand. On a été en bus et après, on a marché beaucoup. Il y avait des grosses collines toutes grises. Et comme c'est un endroit vraiment génial, on a fait de la luge sur une colline. Ça allait hyper giga vite. Mais la dame qui nous accompagnait, elle a dit qu'ils avaient fait un joli sentier pour monter jusqu'en haut, mais qu'on n'a pas le droit de marcher en dehors du sentier parce que la colline, elle tient pas très bien. Elle s'appelle une versa stérile. Et puis après, on a été voir un grand lac, mais on pouvait pas se baigner dedans. On a quand même eu le droit d'en prendre un peu dans un flacon, et c'est trop beau parce que c'est rouge. Les monos, ils ont dit qu'avant, ici, c'était une mine d'andalousite, et que c'est l'entreprise qui avant faisait la mine, et ben maintenant, elle fait des colos pour les enfants, avec plein d'activités. Je vous embrasse fort fort, papa et maman.
Ces terres-là, elles vont être artificialisées.
En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes.
Vous avez le capital.
Achetez des forêts pour enraciner vos placements.
Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser, de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, ben...
Ouais, ils continuent à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
L'appareil policier a procédé à des perquisitions et des interpellations auprès de 9 personnes.
Du pain et des parpaings.
Du pain et des parpaings.
Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
Un ensemble d'actes de désobéissance civile, volontaire et réfléchie.
Comme on dit, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
Salut tout le monde, ici Du pain et des parpaings, une émission d'actu des luttes contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs. Et c'est la numéro 21. On a croisé le 23 novembre une manifestive à Glomel dans le Kreisbreis et on en est revenu plein de témoignages et plein de rage. De quoi s'agit-il ? D'une mine.
La Bretagne a quelques projets miniers en cours et on y reviendra dans une prochaine émission tellement ce sujet est préoccupant. Mais la mine dont on va vous parler aujourd'hui, elle existe depuis 55 ans. Elle est détenue par la société Imerys, une multinationale de l'exploitation minière. Elle extrait à Glomel un minerai qu'on appelle l'andalousite. Ce minerai est utilisé dans l'industrie et dans l'armement. Imerys en produit en grande quantité, puisque c'est un quart de la production mondiale d'andalousite qui vient de Glomel.
Et jusqu'à pas si longtemps, elle menait une existence discrète, mais maintenant Imerys a changé de politique de communication et joue à fond le jeu de l'entreprise responsable, verte et accueillante. Alors que des pollutions ont été constatées, que les nuisances sont nombreuses, que le paysage est saccagé et que les associations révèlent toujours plus de problèmes environnementaux. Et sachant aussi que la mine domine les bassins versants de l'Ailé et du Blavet, des rivières qui alimentent en eau les habitants et habitantes un peu plus bas.
Récemment, le 22 novembre, le média indépendance Plan a publié une enquête qu'on a lue en détail et sur laquelle on s'appuiera largement pendant cette émission et qui a par exemple prouvé la présence de nombreuses substances toxiques en quantité inquiétante, ce à quoi on s'attendait mais ce n'était pas encore documenté.
Imerys possède 565 hectares sur la commune de Glomel. Et la carrière, parce qu'officiellement on dit carrière et pas mine, même si pour certains aspects c'est beaucoup plus proche d'une mine, la carrière donc occupe 260 hectares et il y a actuellement 3 grands trous, 3 fosses. Mais ça suffit pas et l'entreprise projette d'en ouvrir une quatrième pour poursuivre l'exploitation jusqu'en 2044. Elle a donc lancé son projet d'extension avec obligation de produire une grosse étude dont l'étude d'impact environnemental et de soumettre tout ça au public lors d'une enquête publique. C'était il y a un an.
De nombreux habitants, habitantes et associations se sont alors mobilisés, mais la préfecture des Côtes d'Armor a donné son autorisation. Depuis, c'est une lutte de plus en plus intense pour s'opposer à ce projet illégitime et mortifère.
L'association Eau et Rivière de Bretagne a lancé un recours contentieux à l'encontre de l'autorisation pendant la courte période où c'était possible, et le dossier suit son cours.
Alors on va plonger dans la mine avec autour de la table
Elsa,
Marion,
Tiffen.
Et Romain et nos invités
Anna,
Jean-Daniel.
Et bien bienvenue. Bonjour à tous les deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire à quel collectif vous appartenez?
Alors moi, du coup, je suis habitante au centre-ouest Bretagne et je fais partie de l'écosystème d'une association locale qui s'appelle Bascule Argoite. Sa raison d'être, c'est tout simplement transition écologique, démocratique, sociale.
Et Jean-Daniel, moi je suis habitant riverain de la mine depuis 47 petites années maintenant. Et voilà, membre du collectif Mine de Rien. Et comment dire, c'est très bien comme ça.
Et merci à tous les deux. Et sans plus attendre, on va repartir dans cette manif. On rappelle que c'était le 23 novembre et que la veille, l'enquête de Splend a été publiée et a fait l'effet d'une petite bombe. La manif, elle est partie du bourg et elle s'est rendue à la Verse de Sabès, la Verse étant une montagne de déchets miniers située à la périphérie de la fosse.
Et j'avais fait des images et clairement tu vois le truc avancer quoi. C'est ça qui est terrible, c'est que t'as un champ de maïs et puis en fait c'est des cultures quoi, et en fait ça avance tout doucement jusqu'à grignoter la terre quoi.
Quand on passe ici, on remarque à chaque fois cette verse, elle a progressé, elle progresse, elle avale tout, elle va finir par nous avaler quoi. Alors qu'est-ce que vous avez là? Bah, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si vous m'aviez posé la question, je vous aurais répondu qu'il y avait de l'aluminium, qu'il y avait du mica, qu'il y avait du manganèse, qu'il y avait je ne sais quoi encore, si de la pyrite. Mais depuis que le dossier Splend est paru hier matin, eh bien, je dois vous avouer qu'il y a aussi de l'arsenic, qu'il y a aussi du cadmium, qu'il y a aussi du nickel, qu'il y a aussi du cobalt. Et la pile, si vous voulez, la source des pollutions, des cours d'eau alentour, eh bien, elle est ici en fait. Hein. L'eau qui tombe là, sur ces verses, lorsque vous la récupérez au pied des verses, c'est-à-dire lorsque les verses de déchets les ont drainées, bien, vous récupérez de l'eau qui est hyper chargée, hyper toxique en minéraux bien sûr, mais également qui a un pH très très acide, et vous avez là une source d'acidification du milieu qui va se poursuivre. Quand on leur demande quelles mesures ils mettent, ils vous expliquent que de toute façon, quand ils partiront, ils auront recouvert tout ça avec un matériau proche de l'argile, qui est en fait un déchet de l'usine, avec 15 cm de terre végétale et avec un semis de raies gras. Et avec ça, vogue la galère et vous êtes protégé pour 1000 ans. Parce que c'est pendant 1000 ans qu'il va y avoir un drainage mini-acide et de la production d'acide. Donc on est en face à une société qui est responsable, qui est mortifère, qui ne maîtrise pas ses impacts environnementaux, qui nous raconte des histoires et des bobards depuis 50 ans, qui vous produit pour obtenir l'autorisation d'étendre ses activités, des études d'impact qui sont très insuffisantes avec la complicité de l'État. D'ailleurs, le premier argument qu'ils avancent souvent, c'est on respecte les arrêtés préfectoraux qui nous sont imposés. Voilà contre quoi on lutte. On lutte contre une multinationale, on lutte contre une logique qui n'est pas simple à contrer. Et je peux vous assurer qu'une journée comme ça, c'est une journée d'éclaircie pour nous. Parce que habiter à Glomel et lutter contre ce truc-là, ça vous vaut aussi beaucoup de doigts tendus, ça vous vaut une grosse pression, ça vous vaut une mise au placard, ça vous vaut une marginalisation. Et comme Solène, je vous remercie vraiment d'être là, ça nous fait vraiment très chaud au cœur.
On vient d'entendre Jean-Yves Jégot, du coup agriculteur à la retraite, conseiller municipal à Glomel et fondateur de l'association Douarbéo. Il aborde pas mal de sujets dans le extrait qu'on vient d'entendre, mais on va vous laisser réagir d'abord sur cette partie-là.
Il en a dit un paquet déjà des nuisances qui sont provoquées par cette carrière mine. On pourrait rajouter aussi le saccage du paysage. Moi qui suis né là, en fait, j'ai aussi vu, quand j'allais au collège, puis au lycée, les tas de terres de déchets, en fait, qui grandissaient. Déjà, à l'époque, ça me rongeait ça m'agaçait au plus haut point de voir qu'on détruisait un paysage auquel j'étais attaché, quoi. Et en plus, évidemment, des nuisances lumineuses la nuit, Parce qu'ils avaient augmenté vraiment très fortement la pollution lumineuse de nuit. Et évidemment, les transferts d'eau de bassin versant, du bassin versant du Blavet vers celui de l'Ailé. Et au passage, évidemment, ça passe dans tous les tuyaux de l'usine et ça sert, au processus de récupération de l'andalousite, quoi. Et ça sort de tout ça, évidemment. Alors, ils ont une sorte d'usine à chaud pour essayer de rectifier le pH, mais entre-temps, il y a pas mal de choses dedans quand même qui se chargent, quoi.
Bah moi, déjà entendre juste les voix de Jean-Yves qui tremble, ça m'a un peu remué parce que on est dans la même lutte. Vous l'avez présenté comme cofondateur de Edouard Béot, mais du coup Bascular Watt et Edouard Béot sont cofondatrices de Mine de Rien, la coalition. Et on est à peu près une dizaine d'associations au niveau national maintenant dans cette coalition. Et tout m'émeut en fait quand j'entends cette manif, c'est la plus grosse manif jusqu'à là contre ce projet. Écocide et clairement qui se fout de la gueule de tout le monde, en fait, au niveau démocratique, au niveau de... En fait, à plein de niveaux, à tous les niveaux. Je crois qu'il n'y a aucune honnêteté de la part de la société en question. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits. Et c'est forcément ça qui révolte beaucoup. Et voilà les non-dits qui sont quand même pointés maintenant par ce plan. Il faut lire l'enquête pour rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est quand même assez hallucinant qu'ils ont analysé certains métaux et pas d'autres, alors que c'est ceux qui n'ont pas analysé qui sont les plus toxiques pour l'environnement et pour l'humain, quoi. C'est ça qui me met un peu en rage, quoi, en fait.
Il y a quelques mois de ça, il y a quelques mois même, avant que les associations ne se constituent face à la demande d'extension de la carrière, Imerys avait déjà commencé à travailler sur son image et au verdissement un peu de son image, quoi. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait eu une vidéo qui était parue sur Internet et j'avais mis un commentaire défavorable à cette vidéo-là, parce que je disais, moi, ça fait hyper longtemps que j'habite là, je vois pas du tout ça du même œil que cette vidéo-là, et que c'est pas vrai ce qu'il raconte, quoi. Et j'avais été convoqué par monsieur Thomas Louvet, et puis un des directeurs du site de l'époque.
Tu peux nous dire Thomas Louvet?
Thomas Louvet, c'est la personne qui est en charge de la demande d'extension de la mine.
Ok.
Et donc, c'est quand même, je trouve, ça traduit quand même une façon de faire de l'industrie minière ou autre d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'on impose des rapports de force qui sont complètement démesurés. Moi, internaute, j'écris un message et je me retrouve avec l'un des directeurs locaux et le responsable de demande d'extension. Je trouve que ça, c'est en lien un peu avec une vision vraiment très colonialiste de ces grosses entreprises qui arrivent là avec beaucoup d'argent, donc qui distribuent à droite à gauche, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et qui se croient un peu tout permis, c'est-à-dire qu'on va creuser partout, on va tout défoncer, on va récupérer l'argent, parce que là, leur façon d'extraire le minerai, si vous voulez, c'est vraiment une façon très économique, c'est-à-dire qu'on va aller au plus rentable, au plus rapide, ce qui coûte le moins d'argent et qui rapporte le plus. En attendant, les centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui sont faits sur ce site-là, c'est pas la commune de Glomel qui le voit. On a quelques miettes, c'est évident, mais parce qu'il faut bien faire taire les gens. Mais l'essentiel repart ailleurs, mais pas à Glomel, pas dans les Côtes d'Armor, pas en Bretagne, c'est sûr.
Ouais, moi je me demandais, pour revenir justement, c'est un peu sur la partie des dégâts, etc., tout ce qu'il y a, parce que là il y a eu du coup tous les collectifs qui se lèvent contre l'extension du coup de la quatrième fosse. Moi je me demande, et aussi tout ce dont vous avez déjà parlé sur le fait que ce soit hyper opaque, en fait, qu'il n'y ait pas d'informations disponibles, même l'enquête publique, en fait, elle fait 3000 pages, c'est incompréhensible. Et du coup, tout en ayant Imerys qui change de stratégie et promeuve une image très verte, très écolo, etc. Moi, je me demande s'il y avait déjà des choses avant, en fait, avec les trois premières fosses. Toi, tu dis que tu as vu le paysage se dégrader un peu. Et par rapport, en fait, aux données qu'on a ou pas sur la dégradation du territoire.
Je sais que mon oncle avait intenté une procédure avec OI Rivière de Bretagne à l'époque déjà. Alors je sais plus exactement les années, mais il y a déjà eu des rejets massifs en fait de fines dans le Crasus et qui avaient colmaté comment dire, qui avait colmaté le ruisseau. Donc ça veut dire qu'il y a
plus... Ça ressemble à quoi, la fine, c'est quoi?
C'est des poussières de, des poussières de ce qu'on retrouve dans le Sabès, si tu veux, mais c'est sous forme de poussière. Et en fait, il y a eu ce premier événement là. Donc là, les pêcheurs étaient vraiment remontés parce que ça avait fait tuer tous les poissons dans le ruisseau. Mmh. Et au-delà de ça, il y a quelques années aussi, en fait, c'est une entreprise, ils sont vraiment assez... multinationales, une grosse multinationale, mais très amateurs sur le terrain. Et il y a quelques années de ça, en fait, la fosse, une des fosses qui sert à retenir l'eau et de stockage, on va dire, et surtout d'enfouissement de tout ce qu'ils peuvent enfouir là-dedans, d'ailleurs, ils appellent ça une fosse pour de décantation, quoi. Donc ça veut dire un peu tout ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ce qui est décanté, on ne sait pas trop où ça va derrière, parce que cette première fosse, elle n'a pas été recouverte par rien du tout, quoi.
Ça, c'est la fosse 1 ou la fosse 2?
Je crois que c'est la fosse 1, mais là, je suis plus sûr de moi, donc je ne vais pas
m'affirmer. Il paraît que la fosse 2 est très impressionnante, qu'elle est rouge, hyper acide, et qu'il y a vraiment un gros paquet de déchets dedans.
Elle est bleue turquoise.
Elle est bleue, ouais.
Elle est bleue turquoise, on dirait un lac qui donne envie de se baigner, oui, tout complètement.
En fait, ce qui se passe, cette couleur-là, elle est donnée parce que lorsqu'on creuse, on met de la roche à nu, et cette roche, en fait, elle est rincée par l'eau, et l'eau se charge de ce qu'il y a dans la roche, quoi. Parce que quand il y a la terre dessus, ça protège, donc il n'y a pas cet effet-là, quoi.
Sur l'eau, en tout cas, en lisant un peu l'enquête de ce plan, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'eau dont ils ont besoin pour extraire le minerai, ou en tout cas pour leur activité minière, donc qui pompe dans les nappes, et il y a l'eau qui rejette et qui est en partie bue par les animaux et les humains autour. Et ça, il n'y avait pas eu d'analyse avant sur l'eau qui était bue.
Si, il y a des analyses, notamment au niveau des sulfures et puis aussi du manganèse. Mais là, en fait, c'est le principe, c'est un peu comme les agriculteurs, c'est-à-dire que une entreprise a besoin de telle activité, donc elle va venir voir Monsieur le Préfet ou les services de l'État, et puis lui dire, voilà, nous on fait ça, et dans le milieu, c'est plutôt ça, les taux de rejet de manganèse, c'est tel ou tel truc. Quand ils y arrivent pas, ils vont les revoir et puis ils leur demandent, là on aurait besoin d'une rallonge de. Alors hop, ils accordent exceptionnellement un taux supérieur. Et ça, c'est vraiment on est dans le cadre d'un minerai stratégique, et il y a vraiment une collaboration entre l'industrie et les grosses entreprises, enfin l'industrie et l'État, en fait, qui est vraiment à l'œuvre, quoi. C'est comme les agriculteurs, il y a une nouvelle molécule sur le marché, on va dire, il y a le droit à tant de d'épandage de cette molécule, mais qui décide de ça? C'est pas les citoyens, en tout cas, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment un truc là, vraiment ils respectent les normes, ok, mais par contre les normes, qui les fixe et comment c'est fixé?
Du coup, ce plan relève que pas du tout. En fait, ils respectent pas les normes. J'ai des chiffres là sous les yeux. Du coup, concentration en nickel sont jusqu'à 60 fois supérieures à la valeur guide pour un bon état écologique des sédiments d'eau douce. Enfin, là, on voit déjà qu'il y a un problème. C'est hors la loi de faire ça. Juste qu'ils ont pas fait l'effort d'aller chercher en fait ces métaux-là. Et un cobalt aussi, c'est assez dangereux en fait pour le vivant. Et jusqu'à 20 fois supérieure à cette valeur. Enfin, juste en lisant ces deux phrases, il y en a d'autres encore dans cette enquête qui sont juste vertigineuses, en fait. Se rendre compte qu'ils n'ont jamais fait la recherche. Comme tu disais à juste titre, ils sont assez amateurs, en fait, dans leur approche de ce que c'est l'environnement autour d'eux. Ils ont défoncé comme 45 hectares de zones humides en disant on va les restaurer. Mmh. Mais en fait, l'humain n'est pas capable de ça, en fait. C'est des siècles de travail de la nature qui permet de faire ce genre de choses. C'est pas l'humain qui va le faire. Et donc, ils se trompent beaucoup sur quasiment tout. Tout ce qui concerne, en tout cas, le bien-être du vivant, humain ou non. Enfin, voilà, ils se plantent, quoi.
En préparant l'émission, on a eu Dominique Williams au téléphone de Oui, Rivière de Bretagne. On va l'entendre plus tard. Elle nous parlait du plan de gestion des déchets d'extraction. Et alors ça, c'est un document que toutes les entreprises de ce genre-là doivent avoir et qui n'était pas public, et donc qui est censé être public et qu'elle a eu du mal à obtenir. Et donc ça, c'était en 2022, parce que elle disait que c'est les luttes contre Imerys ont commencé déjà en 2013, je crois. Donc ça fait un moment qu'ils sont sur le dossier. Et bon, voilà, ça prouve que, enfin, ça montre à quel point c'est important d'avoir des organisations qui vont fouiller un peu et demander et exiger des choses qui sont des acquis démocratiques, quoi.
Mais peut-être aussi d'autant plus important dans le cadre de l'activité minière, dans le sens où là, par exemple, à Glomel, c'est maximum 1,2 million de tonnes de roches extraites chaque année. Et que sur cette masse-là, il y a une production finale de 65 000 tonnes d'andalousite. Donc, ça représente 5% de ce qui est extrait. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a 95% de déchets, quoi. Donc,
tout à fait. Et ils ont les moyens de... Enfin, en réalité, je ne sais pas s'ils ont des moyens à Glomel, mais Imerys, c'est une boîte qui a 4 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Et ils ont les moyens d'acheter des machines pour retrier les déchets, en fait, pour extraire un peu plus. Il y a 15% encore qui dorment dans ces collines de stériles. Juste qu'ils l'assument par eux-mêmes, ils l'ont dit à plusieurs reprises, qu'en fait ça les arrange pas parce qu'économiquement ça serait pas très intéressant de racheter les machines qui vont filtrer tout ce bazar. Et voilà, en fait ils attendent que la tonne monte de 600 euros à beaucoup plus. 600 euros la tonne, c'est quand même juste, c'est hallucinant. C'est rien. Et voilà, ils attendent que ça monte sur le marché pour investir dans des machines. Et ils l'assument ça, et je sais pas comment ça se fait que ça a jamais révolté personne, que personne s'est posé les questions sur ça. Enfin,
oui. Ça, c'est ce qui s'est passé dans d'autres mines au sud de l'Espagne qui avaient été abandonnées, et les concessions, elles ont été réouvertes quand les taux, ils ont explosé. C'est vraiment de la spéculation sur ces ressources, quoi.
Bah, un peu en lien avec ça, juste peut-être la dernière question serait le fait, justement, du coup, la mine, là, elle est censée, la quatrième fosse sera ouverte, du coup, la mine sera ouverte jusqu'en 2044, normalement. Mmh. Après, il y a ce que, normalement, Imerys doit faire, du coup, la remise en état, je sais plus combien d'années c'est. Mais c'est très très court, en fait, le temps d'utilisation de la mine qui est très très court, même à l'échelle humaine. Et puis ce qui se passe après la remise en état, on sait que c'est un temps beaucoup trop court, évidemment, pour remettre le paysage en état, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais moi j'aimerais bien savoir que vous arrivez à nous dire un peu plus sur quels sont les risques, en fait, à long terme. Qu'est-ce qui va se... Enfin, parce que là on parle d'une échelle de pollution qui est sur le temps long, 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 quoi.
Ouais. Les risques à long terme, on est plus sur ce qu'expliquait Jean-Yves tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un peu la métaphore du café moulu fin, quoi. C'est-à-dire tu fais un tas de café grossier, tu verses de l'eau dessus, t'as pas grand-chose qui se passe. Tu fais un tas de café moulu, tu mets de l'eau dessus, t'as une eau noire qui ressort, quoi. Et c'est le même principe avec tous les tas de terre, en fait, qui sont faits, enfin, des tas de roches, c'est même pas de la terre, malheureusement, c'est des tas de roches qui sont faits à droite à gauche, mais c'est gigantesque, en fait. On dit là des tas, on s'imagine un tas de camions, mais non, c'est un tas, c'est des millions et des millions de mètres cubes de roches, en fait, qui sont à l'air libre. Et le bonus là-dedans, c'est que la roche à l'air libre, elle va engendrer, comme disait Jean-Yves tout à l'heure, comment dire, l'acidification du milieu, quoi. Et ça, plus il y a de l'eau à couler dessus, plus ça continue, quoi. Une fois que ça a démarré, on peut pas l'arrêter, en plus, ça acidifie le milieu, quoi. Mmh. Et à long terme, il y a aussi le fait que tout cette eau qui a une part de l'eau, en fait, qui va, comment dire, ruisseler et repartir. Normalement, il y a une fosse de traitement, puis retourne dans le milieu, mais quand eux seront plus là et que la station de traitement sera obsolète, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a quand même une réserve de minéraux à ciel ouvert et qui, elle, en fait, la réserve, elle va rester là, quoi. Et au-delà de ça, il y a aussi dans les fosses, enfin, alors, c'est plutôt une sorte de bassin de décantation qu'il y a au niveau du Crasius, là. C'est un bassin où on suppose très fortement qu'il y ait beaucoup, beaucoup de manganèse et, a fortiori, depuis l'enclave de Splend, à mon avis, beaucoup d'autres minéraux et puis métaux lourds. C'est une butte de terre qui retient cet étang. Qu'est-ce qui se passe dans 15 ans quand Imerys sera, enfin, on ne sait pas quand ils seront plus là. En tout cas, longtemps après, s'il y a beaucoup d'eau arrivée d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Si le barrage lâche, c'est une butte de terre. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir là une pollution massive et d'un coup, au mieux, la pollution, elle est au fur et à mesure que l'eau passe dedans, quoi. Mais voilà, il y a des vrais dangers et des vraies questions à se poser sur l'après, quoi.
Du pain et des parpaings, une émission qui ne mine pas le moral.
la mine.
Peut-être 15 jours, peut-être.
Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser aux jeux et aux enjeux de pouvoir autour de cette mine de Glomel. Et pour introduire tout ça, on vous propose de retourner pendant une réunion de préparation de l'émission.
Mais en fait, c'est quoi Imerys? Je veux dire, c'est qui les patrons là?
Alors, Imerys, c'est une multinationale française qui se spécialise dans la production et la transformation de minéraux industriels. Je lis Wikipédia là. Mais elle est partout en fait, genre dans 54 pays, en Europe, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis. Alors à la base, c'est une entreprise de la famille Rothschild de la fin du 19e. En 1970, elle fusionne avec la société Le Nickel, et là, elle prend le nom de e-metal.
Attends, la société Le Nickel, celle qui exploite la terre et les humains en Kanaky-Nouvelle-Calédonie.
Eh ben ouais, carrément. Enfin bon, en 1999, après avoir colonisé son bout de planète, elle devient Imerys.
Ok, mais attends, moi j'avais compris qu'à la base, à Glomel, c'était la petite entreprise d'Amrec de Normandie qui s'était installée dans les années 70 pour extraire le minerai.
Bah ouais, mais elle a été vite fait rachetée par e-metal en fait. Et c'est là que deux voraces de la finance, Albert Frère et Paul Desmarais, ils ont flairé le coup. Avec Pargesa, leur structure financière, ils ont pris des participations dans e-metal. Pour eux, c'est un investissement parmi d'autres en fait. Avec Pargesa, ils ont largement profité de la financiarisation du secteur industriel, donc ils sont à Lafarge, à Total, à GDF Suez, enfin ils sont au taquet. Et les deux, avec une fortune proche de 10 milliards en tout, bon, ils sont morts maintenant, ils ont tout légué à leurs descendants et descendantes.
Mais attends, alors c'est Pargesa qui contrôle tout là, c'est ça?
Bah, Pargesa, elle est détenue à 100% par la holding Parjoinco. Alors, Parjoinco, à la base, mais attendez, c'est détenu par les deux compères de la finance, les mêmes là. Donc maintenant qu'ils sont morts, il y a je sais pas combien de holdings derrière, mais bon, c'est toujours au nom des deux familles.
Ah ouais, Mais attends, du coup, j'imagine que Imerys, elle est détenue par pas mal de financiers, pas seulement par Gessa. Enfin, c'est pas que les deux frères et leurs descendants, non?
Oui, c'est ça. Enfin, si, c'est quand même un peu les chefs. C'est-à-dire que par Gessa, elle détient 31% de la GBL, la holding Groupe Bruxelles-Lambert. Et la GBL, elle détient 55% des parts de Imerys. Mais bon, la GBL, bah, ils sont partout aussi maintenant, en fait. C'est des milliards dont on parle. Gagnés grâce à la finance sur les terres, l'extractivisme, les jeux, l'immobilier. Elle a 6% des parts d'Adidas, par exemple, 7% des parts de Pernod Ricard.
Mais c'est qui qui a GBL, alors?
Ben, au conseil d'administration de GBL, on retrouve Yann Gallienne, c'est le mari de Ségolène Frère, donc la fille du père. Il est administrateur délégué et il est CEO. Et dans le conseil d'administration, il y a aussi Ségo, les fils, les petits-fils des deux frères. C'est un petit monde de la finance qui, via l'héritage, accumule les millions, si ce n'est plus. Ségo, par exemple, elle est dans plein d'autres conseils, genre Christian Dor, la société civile du château Cheval Blanc et tout ça.
Mais c'est quoi le rapport avec Glomel, là?
Mais ouais, t'as vu, c'est pas simple. En fait,
le rapport, c'est qu'on n'a pas moyen de savoir vraiment à quoi sert l'argent. On a du mal à croire que tout ce petit monde qui fréquente Trump, Bush, Lagardère, Rothschild, etc. soit en priorité intéressé par le climat et la biodiversité.
En tant qu'entreprise industrielle, Imerys a une politique environnementale très complète. Et elle s'engage à travers le monde entier pour la préservation et le respect de l'environnement et des milieux naturels. Ici, à Glomel, nous sommes une bonne illustration de ces engagements. La priorité de notre site se porte sur le traitement et la gestion de nos rejets aqueux. Et en parallèle, nous analysons rigoureusement des indicateurs biologiques, chimiques et hydrauliques dans le but de s'assurer du bon état écologique des masses d'eau aux alentours du site. Nous sommes très fiers de notre engagement auprès de la biodiversité et de nos parties prenantes. Par exemple, à travers la mise en place d'une surveillance régulière de nos émissions, que ce soit pour le bruit, les rejets atmosphériques, les vibrations, qui sont également encadrés par notre arrêté préfectoral. C'est pourquoi nous multiplions les projets dans le but de développer de nouvelles techniques de traitement. Nous développons par exemple des collaborations avec les associations naturalistes locales et nous animons des comités consultatifs ainsi que des visites de sites dans le but d'informer nos riverains, les élus et les collectivités locales.
Ok, donc on a entendu que Imerys est très fier de son greenwashing et que des relations avec les associations locales. Et de votre côté, qu'est-ce que vous en dites?
Sur toute cette histoire complètement dingo, j'ai lu quelque part sur ses frères Desmarais, tout ça là, une citation très juste, c'est les maîtres de l'art subtil et destructeurs de la prédation. Il y a même y a un livre qui est écrit sur ces deux personnages et sur tout ce que vous venez de dire. C'est super, c'est une enquête en livre. Et du coup, effectivement, ils ne font rien de bien à personne. J'ai l'impression, à part eux-mêmes et leur famille, ils s'enrichissent sur les dos de nous, en fait, aussi. On fait partie de la biodiversité et de l'humanité. Enfin, l'humanité fait partie de la biodiversité. Et enfin, c'est juste scandaleux et en fait, désespérant en quelque sorte, parce qu'ils ont... Enfin, là où on se rend compte, enfin, moi, je me rends compte en tout cas qu'on est face à un Goliath. Et encore, c'est une toute petite entreprise extractiviste au monde. Il y a des gigants par rapport à Imerys. Il y a des trucs qui dépassent je crois qu'il y a... Enfin, vraiment, c'est une toute petite entreprise, en fait. C'est ça qui fait peur. C'est qu'ils font beaucoup de dégâts et c'est des plus petits joueurs. Et je pense que c'est ça qui me aussi... Enfin, fait flipper un peu. En fait, j'ai l'impression parfois qu'on est face à un faux ennemi, un peu. C'est pas eux qu'il faut viser, finalement. C'est des gentils, quoi. C'est des gentils dans ce jeu qui est plutôt monstre. Voilà ce qui me fait flipper.
Mais pour moi, je trouve que c'est assez désespéré de leur part, en fait, d'essayer de se croire un verre et puis faire les choses comme il faut. En fait, en effet, ils respectent plus ou moins... Enfin, quand ils cherchent les bons métaux, ils essayent de respecter les normes qui sont fixées à leur avantage. Mais l'extraction, ça reste une activité qui est polluante de toute façon et qui ne pourra pas l'être. Ça peut pas être autrement, en fait. Donc essayer de dire que c'est vert, c'est pas possible. Donc c'est presque du mensonge au final, parce que ok, ils sont dans leur droit de réglementation parce qu'on leur donne, mais c'est vraiment du pipeau. Puis là, on voit bien avec l'enquête qui est sortie, tous les métaux lourds, que on est hors des clous, mais largement, quoi.
Mais en fait, dans cette partie, ce qui nous intéresserait aussi de voir en plus dans le détail, c'est comment justement Goliath là s'implote au niveau local et qu'est-ce qui fait que Imerys, en fait, ça devient quelque chose de quasiment totalitaire, en fait, que ce soit dans la vie du conseil municipal, parmi les habitants. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi le fait que ça crée des tensions, en fait. Des gens qui habitent à Glomel ou aux alentours, les subventions aux associations, etc. Enfin, vraiment voir un peu comment tout ça marche, quoi.
Ben, en fait, ils sont arrivés déjà avec une promesse, en quelque sorte. Ils ont flatté la population à l'époque en arrivant en disant, en fait, vous êtes assis sur un gisement extraordinaire, votre terre est extraordinaire. Et donc, ils ont promis un peu la gloire, en fait, à des gens. Ils ont donné des emplois dans un village comme, enfin, la Bretagne est quand même héritière d'une histoire assez particulière. Il y avait un exode rural assez vénère. Il y avait un remembrement. Il y avait beaucoup de pauvreté, d'alcoolisme et plein de choses. Et en fait, du coup, les gens, bien évidemment, quand on leur promet un travail, ils se jettent dessus. Ils savaient que leurs cousins ou leur fils ou leur fille pouvaient travailler un jour dans cette entreprise. Et du coup, évidemment que, enfin, c'est facile d'acheter, en fait, par ces promesses d'embauche, quoi. Mais ce qui est flagrant, c'est que finalement, à Glomel, il n'y a pas tant que ça de personnes qui travaillent pour Imerys. C'est plutôt des personnes... Enfin, on a calculé un peu, c'est une trentaine de personnes de Glomel, je crois. 60 à peu près de CCKB. Et les autres viennent d'ailleurs, et c'est 120 employés à peu près, quoi.
CCKB, c'est la collectivité de communes, la communauté de communes Crèze-Brest.
Crèze-Brest, tout à fait. Et donc, du coup, c'est pas tant que ça de gens non plus qui sont employés. Et après, il y a plein de trucs. Au conseil municipal, il y a une personne qui travaille chez Imerys. Il y a toujours quelqu'un de la famille de quelqu'un du conseil municipal qui est quelque part à côté d'Imerys ou chez Imerys, en fait. Du coup, c'est un peu comme une petite famille locale. Et nous, du coup, moi, je peux juste parler de mon expérience en tant que riveraine, mais d'une autre commune. C'est effectivement ce qui me révolte, c'est que pour eux, en fait, là, on s'est rendu en conseil municipal au mois de novembre et on nous a quasiment virés, en fait, là-bas. Il y a un gars qui nous bloquait la porte d'entrée. Donc, ils ne nous laissaient pas rentrer en disant « Vous êtes même pas de Glomel, cassez-vous ». Et moi, j'ai réussi à me faufiler dans le conseil municipal, dans la salle, parce que j'avais envie d'enregistrer ce qui se dit. En fait, il y avait trop de sujets qui concernaient Imerys, et donc qui me concernaient moins en tant que riveraine, même si je suis un peu plus loin. Donc, pour eux, il y a un peu ce truc de « En fait, les problèmes liés à Imerys s'arrêtent à Glomel, c'est pas vos affaires ». Mais en fait, elle est longue, en fait. Elle passe à côté de chez moi, et il va jusqu'à Quimperlé, il se passe quoi? Il rejoint l'État rejoint l'océan. En fait, c'est une boucle infernale et infinie. Et j'ai l'impression que c'est oublié, ce truc-là. Que l'écosystème, c'est beaucoup plus large, ça dépasse les frontières que les humains, ils ont dessinées sur une carte. Ça dépasse un conseil municipal. Et voilà. Je suis peut-être hors sujet.
tu as vogué au gré de l'élé. C'est vrai qu'ils ont des comportements qui sont assez méprisants quand même envers la population. C'est-à-dire que depuis les années 70, ils n'ont pas cessé de financer des maillots de foot par là, d'ouvrir des terres aux chasseurs à côté. comment dire, de les associations, tu vas les voir, tu reviens facilement avec 500 euros. Enfin, ils distribuent un petit peu de, ils sont aussi malins de, pour aller à Glomel, pour faire fonctionner l'hôtel qui était là à l'époque, l'épicerie, le tout ça, le bar. Donc il y a vraiment un, ils ont des méthodes vraiment contestables. Lorsque, pendant l'enquête publique, il y a les salariés, qui venaient avec la voiture de fonction d'Imerys pour se poster devant la mairie, pour être là, soi-disant pour répondre aux questions. Mais c'est plutôt de l'intimidation qu'autre chose pour moi, ce genre de comportement, quoi. Mmh. Et à force d'années, en fait, comme le disait Anna tout à l'heure, il y a toujours, quand on vit dans un petit village comme celui-là, en fait, on connaît toujours quelqu'un qui y travaille ou machin. Mais sauf que ces gens-là, on les croise au foot, on les croise à l'épicerie. Hein. Donc, s'élever contre quelque chose qu'on trouve vraiment détestable, c'est compliqué. Parce que tout de suite, on s'engage vraiment fortement quand on est riverain proche, en tout cas, et riverain éloigné aussi. Enfin, de toute façon, on est tous concernés, mais on croise les gens rapidement. Et du coup, ça crée vraiment des ambiances très, très, très compliquées au sein des communes, quoi.
Ouais, on lit aussi dans l'enquête de Splend que il y a, c'est une espèce de, enfin, ils ont beaucoup travaillé le soft power en plus de ces qu'il y a notamment une association de soutien, une communauté de soutien à la carrière de Gerfalès, donc à la mine de Glomel.
Gerfalès.
Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi toute la partie foncier dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé là, où ils ont du foncier, donc ça veut dire que les agriculteurs qui sont installés sur les terres qu'Imerys possède, bah, c'est une façon d'avoir du pouvoir sur eux aussi.
Totalement, c'est vraiment un grave problème, c'est-à-dire que on a 560 hectares en propriété, donc c'est vraiment gigantesque comme surface, quoi. Et donc ils les distribuent aux agriculteurs qui sont riverains dans des baux précaires, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre ils peuvent perdre leur terre. Alors quand on a 1 ou 2 hectares sur 60 ou 80, ça va. Quand on en a 30 sur les 70, c'est bien plus compliqué. Donc c'est une façon d'acheter les gens qui sont autour aussi, quoi. Et puis là, il y a un agriculteur du coin qui a fait les frais, il s'est rebellé contre Imerys. Et résultat des courses, Imerys aura envoyé un courrier pour lui dire qu'il perdait ses terres, quoi.
Donc on a vraiment de lancer un maire de Glomel.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc il y a des procédures là qui sont en route et il y a des très 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 fortes chances qu'Imerys perde, et heureusement. Et il faudrait que les agriculteurs se liguent aussi et se parlent entre eux pour essayer de contrecarrer un peu cette façon vraiment lamentable de procéder.
Juste pour le contexte, ce qui s'est passé, c'est que il y a quand même la directrice de Imerys avec une personne de Imerys costumée, cravate et tout ça, qui sont partis toquer à la porte de chaque personne qui a signé un bail précaire. Donc chaque agriculteur était confronté à cette image des personnes qui sont bien habillées, qui sont les propriétaires terriens, les rois, quoi, en fait, quelque sorte, quoi, rois locaux, les seigneurs, ouais, c'est ça. Et il faut juste restituer ça et se dire, bah, en fait, tout le monde, effectivement, il y a la conf paysanne, certainement, parfois, derrière quelques paysans, mais tout le monde a dit, oui, bien sûr, bah, on signe, bah, qu'est-ce que tu veux faire face à ça? C'est une pression. Qui est quand même immense, quoi. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'ils ont signé, même si c'est quand même super.
Ils ont signé quoi? L'enquête publique?
Ils ont signé le fameux bail. En fait, Imerys a proposé un autre bail précaire qui était maintenant gratuit. À l'époque, ils payaient un tout petit peu. Et là, ils ont dit oui, c'est gratuit, mais en fait, ça allège toutes les conditions d'expulsion de ces bailleurs précaires pour du coup creuser. En fait, c'est ça qui s'est passé.
Et en termes de pression, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où est-ce que ça en est sur justement les liens avec le conseil municipal? Il y a eu pas mal de remous là ces derniers temps à Glomel, et peut-être là où est-ce que on en est aujourd'hui?
Ben il y a toujours la tension au conseil municipal, et les réseaux sociaux sont pas là vraiment pour apaiser les choses. C'est-à-dire il y a pas mal de messages qui sortent et des choses qui sont dites. Et malheureusement, souvent les gens, en fait, ils réfléchissent pas trop à ce qu'ils écrivent, et puis c'est un petit peu sous le coup de la colère, et on est vraiment dans le registre un peu de, comment dire, de la diffamation, quoi. Et du coup, on est, voilà, à l'heure actuelle, c'est un peu, en plus, il y a eu des tags sur la mairie, il y a eu des sabotages. Il y a certains membres de la commune, mais aussi du conseil municipal, je crois, qui nous accusent d'avoir fait ça. Après, nous, on est sur le terrain politique, quoi. On peut, voilà. Donc voilà, il y a des choses, ça se tend, quoi. Ça se tend et c'est une commune qui a déjà connu aussi des tensions lors des, comment dire, lors du mouvement des coquelicots. Je me souviens, on était dans le bourg aussi. Voilà, il y a eu des tensions entre les agriculteurs et puis les écologistes. Enfin, c'était, il y a eu l'épisode de Morgan Large aussi qui s'était fait déboulonner sa roue. Enfin, c'est vraiment une commune où c'est tendu, c'est vraiment tendu, quoi.
Du pain et des verres pains, une émission pleine de pépites.
Et on arrive dans cette troisième partie de l'émission. Alors, on a parlé depuis le début des dégâts, on a parlé des jeux de pouvoir. Tu parlais là juste avant la pause musicale de la pression et des tensions qui existent. Et bah, du coup, vous, dans tout ça, comment est-ce que vous faites pour vous organiser ?
Excellente question. C'est vrai que c'est important comme question parce que déjà, ce qui nous caractérise, je dirais, c'est on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas qui sont produits constamment dans la société. Donc, on choisit les méthodes de gouvernance partagée, par exemple. Donc, on s'organise avec ces outils-là, avec beaucoup de bienveillance dans le groupe quand même aussi, dans les groupes au pluriel qui, du coup, se rassemblent dans cette coalition, mine de rien. Et là, récemment, il y avait ceux du Monde de la Terre aussi qui ont quand même été vachement aidants. Il y a une nouvelle antenne. Pareil, il y a des belles parallèles à tracer en ce moment dans les luttes. Il se passe quelque chose au niveau de démocratie, que aussi, il y a beaucoup de ré-questionnements. Donc, ceux du Monde de la Terre, typiquement, ils sont en train de monter les antennes locales partout. Et donc, c'est pas avec peu de fierté que je peux dire que on a fait partie quand même de la première saison d'une antenne, la première antenne locale, donc ceux du Monde de la Terre Mervent, qui ont été un super soutien et qui sont hyper à l'écoute de ce qui se passe sur leur terre. En fait, on a fait un comité, participé à un comité, et c'est là où c'était aussi décidé ensemble que extractivisme, c'était quand même le sujet numéro un. Il y a l'agro-industrie toujours qui est tout le temps là, mais voilà, y a, ce sujet-là, il est hyper important parce que les permis de recherche minière sont déposés de partout actuellement, ça se passe maintenant. On voit des drones constamment rechercher, je ne sais pas comment exactement ils font, avec quelle technologie, des ondes, des machins. Mais en fait, c'est hyper grave et on risque de vraiment se faire bousiller la Bretagne, qui est déjà une terre sacrifiée, comme le disent beaucoup de différents documentaristes, écrivains et écrivaines. Et voilà, ça fait peur et je vais m'arrêter là.
Et ouais, du coup, on se demandait aussi un peu, en lisant ce plan, mais en fait, même avant que sorte l'enquête, du coup, il y a plusieurs collectifs, vous avez évoqué les tensions qu'il y a dans la collectivité, etc. Mais en fait, qui fait partie des collectifs? Est-ce que c'est des collectifs comme les soulèvements de la terre qui sont là contre l'extractivisme, du coup peut-être plus récemment? Est-ce qu'il y a aussi des collectifs d'habitants, par exemple, qui sont en fait montés juste parce qu'il y a des nuisances sonores, des nuisances visuelles, etc. En fait, qui fait partie des différents collectifs et comment tout ça, ça...
C'est quand même beaucoup d'habitants et habitantes, en fait, ou riverains-riveraines, en fait, qui peuplent ces collectifs. Il y a plusieurs assos. La première asso qui avait été constituée, c'était l'asso réfractaire. Qui est toujours active. On a une association qui est venue par la suite, qui s'appelle Douarbeu. On a aussi une...
Qui veut dire quoi ?
Terre vivante. Réfractaire, jeu de mots. Il y a aussi une association de riverains et riveraines, en fait, qui voulait pas forcément monter une asso et tout ça, mais qui par d'autres moyens d'action, en fait, voulait aussi participer à la lutte, quoi. Et on a donc mine de rien la coalition qui, on va dire, mine de rien, ça ratisse un petit peu plus large au niveau de ses membres. On est plus dans des assos régionales et nationales. On essaye de rassembler et puis de profiter de l'expérience d'assos plus sœurs et plus grandes, quoi.
On va écouter un bout d'entretien avec Dominique Williams, dont on a parlé tout à l'heure, habitante de Glomay aussi et copilote de la commission juridique à Haut-et-Rivière-de-Bretagne, qui connaît bien le dossier Imerys parce qu'elle a suivi les contentieux à répétition depuis 2013. Elle nous fait un point sur le dernier recours contentieux qui a été déposé tout récemment.
Aujourd'hui, donc, après avoir ouvert puis recomblé avec ses déchets la fosse 1, ils ont creusé une fosse 2 qui est en voie de comblement par les déchets liquides. Et puis, ils ont ouvert une fosse 3 qui a été étendue. Et aujourd'hui, ils souhaitent donc ouvrir une fosse 4, sachant que les impacts sur le milieu naturel sont avérés, bien documentés, pas grâce à Imerys, mais parce qu'il y a eu des suivis et plus récemment toute une campagne de presse par le biais de reporters, SPLAN, etc. Les alertes que nous avons pu soulever ont été évacuées. Et donc, l'entreprise, aux yeux du préfet, tout va bien, il n'y a pas de souci. Nous sommes donc pas du tout d'accord et nous avons ouvert ce contentieux tout récemment, à la fin du mois d'octobre, pour un motif qui est assez couramment évoqué, c'est-à-dire une insuffisance de l'étude d'impact. Le dossier qui a été construit par l'entreprise pour justifier son projet était très sélectif dans ses argumentaires et éludait pas mal de points qui étaient justement les points qu'il aurait fallu
expliciter, voilà. Montrer. Alors donc c'est bien, hein, Rivière de Bretagne, c'est une asso très organisée avec des juristes compétents, malgré le fait qu'ils soient bénévoles, puisque c'est une bénévole, hein, Dominique Williams. Et désolé, petit correctif, donc elle n'est pas de Glomel mais de Prisiac, donc à une dizaine de kilomètres, voilà. Tu disais recours
suspensif. C'est-à-dire que c'est un recours qui est déposé, mais ça n'entrave en rien la possibilité d'Imerys de jouir du terrain dont elle a eu la possibilité d'extraire du minerai. Donc pour nous, c'est aussi une veille supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on surveille quand est-ce qu'ils vont démarrer le creusage c'est quelque chose qui nous inquiète pas mal. Est-ce qu'ils vont oser démarrer rapidement ou est-ce qu'ils vont attendre la fin du contentieux pour démarrer? Je sais que là, pour l'instant, ils ont défriché déjà, ils ont coupé des arbres, mais on surveille ça de près. Voisin vigilant.
bien. Militant vigilant. Au moins. Peut-être le deuxième son de Dominique?
Absolument.
Pour finir, Dominique va nous parler un peu de d'autres projets miniers en France et aussi plus particulièrement en Bretagne.
Dans l'avenir, est-ce que le risque d'implantation de mines est présent en Bretagne ?
Ah ben, il y a au moins des velléités très claires de la part de l'acteur actuel, qui est l'entreprise Braise Ressources, une filiale d'une société canadienne qui est apparue sur suite à l'apparition début janvier 2024 de textes au journal officiel qui nous ont fait réaliser qu'il y avait à nouveau des demandes de permis miniers qui concernaient ce massif armoricain. C'est une formation qui va jusqu'à Angers. Trois permis qui sont concernés. Ceci est une deuxième vague, puisque il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, on avait eu cette fois-là une filiale d'une société australienne qui s'appelait Variscan Mine, qui avait elle aussi eu des velléités de demander des permis miniers en Bretagne, mais également en France, puisqu'il y en avait 7 ou 8 sur toute la France. Et tous ces permis qui avaient été accordés ont finalement été cassés ou abandonnés par l'entreprise pour une raison ou pour une autre. Mais tout cela s'est fait grâce à une mobilisation associative et citoyenne extrêmement soutenue.
Bravo, Nominaran.
Nominaran.
Vous les connaissez un peu, vous, les projets miniers dont elle parle ?
Ouais, bah notamment celui des Chassières. Je suis allée à leur rencontre au mois de mai, je crois. Ils ont fait tout un rassemblement de plein de gens qui se battaient contre les mines et les carrières en France. Et effectivement, ils font partie aussi de la coalition Mine de Rien, Stop the Mine 03, le collectif.
Ça, c'est dans l'Allier, c'est ça ?
C'est ça, c'est donc aussi Imerys. Et c'est, je crois que le projet s'appelle Émilie. Donc la mine verte responsable, oh, qui vend du rêve. C'est assez incroyable quand on voit les petites vidéos YouTube là, qui te racontent comment elle va être faite. T'as l'impression que waouh, wow, mais c'est trop stylé, on va vraiment pouvoir sauver le monde comme ça. Mais sauf que voilà, ils sont pas prêts du tout. Il y a pas mal de personnes qui ont inquiété aussi sur la question. Ils ont pas du tout en fait les technologies dont ils parlent dans leur projet marketing, quoi, en fait. Et ça, c'est assez alarmant. Après, oui, on a essayé de quand même rencontrer plusieurs. J'ai récemment rencontré le collectif Douard Didoul aussi, qui a gagné justement contre plein de projets miniers vers Plogon Vert, tout ça. À Tréguennec aussi, il y a tout un projet contre le lithium. C'est pas très clair de comment ça se passe, parce que visiblement, il y a beaucoup de tensions autour de tout sujet. Enfin, a priori, il y a tout un truc de. On essaye de presque. Enfin, pousser les gens à la porte, en fait, de cette commune. Voilà, j'ai eu des gens au téléphone qui vivent là-bas, ils comprennent pourquoi en fait ça se passe de cette manière-là. C'est qu'il y a des prédateurs qui arrivent et qui veulent les terres, et donc ils virent un petit peu les gens par l'interdiction des fêtes, par exemple. Donc on connaît un peu tous ces luttes-là, parce que c'est les luttes sœurs. Plumeur aussi, il y a un truc de Imerys, c'est le kaolin. Et Chassière, c'est kaolin aussi. Donc en fait, Imerys, leur petite couleur, c'est quand même être propriétaire de plein de terres de base, et ensuite creuser jusqu'au bout. Et ce qui se passe à Chassière, c'est que voilà, kaolin, il y en a presque plus. Ils ont découvert plein de lithium en dessous. Bah, ils y vont, quoi. Et ça vraiment, ils ont beaucoup d'appétit.
Et du coup, là, tu parlais pas mal des liens qui sont faits avec donc d'autres luttes ailleurs, avec des mouvements plus larges qui s'emparent de la question de l'extractivisme en général. Et du coup, vous, de votre point de vue, c'est quoi l'impact de tout ça sur la lutte en termes de prise de conscience, de ralentissement des projets d'Imerys ? Est-ce que vous voyez au fil des années quelque chose qui évolue, ou comment vous le voyez ?
C'est dur de le dire, parce qu'en fait, on évolue aussi dans des milieux assez restreints. Les militants et militantes qui s'intéressent à l'extraction et l'anti-extractivisme, justement, c'est un petit milieu aussi, et ce qu'on espère en tout cas, c'est que à force d'en parler à gauche et à droite, et que au moins d'informer la population, au moins que les gens prennent conscience un peu de ce qui se passe autour d'eux, et aussi les interpeller quelque part sur quel type de société est-ce qu'ils veulent pour demain aussi. Est-ce qu'on va dans tout le technologique? Est-ce que quelle quantité de matière de minerais est-ce qu'on a besoin de telle sorte, et pourquoi faire surtout, quoi? Parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est surtout les industriels qui mènent la danse. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des nouveaux produits en tête, des nouveaux projets en tête, et ils ont envie de vendre leurs produits. Donc, ils y vont, tant qu'ils peuvent y aller, ils iront. De toute façon, c'est ce qu'il m'avait dit lors de mon entretien. Il m'avait dit, heureusement qu'il y a des écologistes, sinon on ferait n'importe quoi. Mais j'ai pas enregistré. C'est quand même dommage.
C'est clairement dommage. La régulation. J'avais juste envie d'ajouter, peut-être que quand même on est aussi un lien au niveau international. Il y a une coalition récente qui s'appelle Red Global Anti-Extractivisme qui s'est montée. Leur première action a eu lieu le 18 août. Il y a un article qui est apparu sur Monsieur Mondialisation. Ça n'a pas été beaucoup médiatisé malheureusement, mais en fait on se monte des coalitions contre tout ça au niveau international. Parce qu'en fait, juste pour préciser quand même qu'on n'est pas... parce que ça se passe dans notre jardin, on n'est pas contre ce projet pour cette raison-là, on est contre, c'est en fait ni ici ni ailleurs le message, un peu à la Stop Mine 03, c'est arrêtons en fait cette espèce de frénésie, quoi, extractiviste, et réessayons autrement. C'est ça le message.
Moralement et de façon éthique, je ne peux pas aller contre une race. C'est comme ça. Et je ne reviendrai pas dans ma décision.
Ah, Louis, il va être content. Son
toute la semaine, on entend bleu à midi. C'est pas l'église qui fait les cloches, c'est l'Imeris qui.
3000 tonnes, c'est ça?
Bien moi.
Et ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci Anna et Jean-Daniel, et on vous souhaite force, joie et succès dans votre combat qui est aussi le combat de toute la Terre. Tenez-nous au courant. Et avant de nous quitter, quelques actus justement, tu parlais des actus.
Par exemple, le collectif Terre de Lutte qui a publié le 4 décembre un gros dossier sur les luttes écolo victorieuses en France dans les 10 dernières années. On mettra le lien dans les ressources sur la page de l'émission. Cette recherche, en fait, elle s'appuie sur un travail mené depuis plusieurs années par deux sociologues, Gaëlle Roncin et Juliette Piketty-Moine de l'ENS. Et vous trouverez aussi sur le site de Reporter une carte interactive qui fait figurer Plogoff, Notre-Dame-des-Landes, l'usine d'extraction de sable à Lannion, l'usine à saumon de Pouisy, etc., etc. Bref, 250 sites sont répertoriés. C'est toutes les luttes en France qui ont gagné entre 1971 et 2024.
Alors, côté étrennes de fin d'année, Basta, le média en ligne indépendant, se lance dans un gros projet, produire un fil d'actu concurrent de Google Actualité avec des contenus de médias indés. Voilà, pour cela, il lance une campagne de dons et espère récolter 80 000 euros.
Pour la radio, l'association Longueur d'onde qui organise à une poignée d'irréductibles le festival de la radio et de l'écoute est en grosse galère financière. Si vous avez 10 ou même 10 000 euros... alors donnez, l'asso pourra survivre et continuer toute l'année à animer des ateliers et vous accueillir à Brest même chaque début d'année pour défendre les petits sons et les grandes rencontres.
Pendant l'heure qui vient de se dérouler, on a entendu le morceau Balade arabo andalouse du groupe La Femme, Tam Craze du groupe Mojo. Et on est en train de désannoncer tout sur un DJ set de Don't Bother.
Évidemment, on vous conseille vivement de lire la belle enquête de Splende sur le site splende.org, ainsi que le livre de Célia Isoar, La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition. On rajoute aussi Morgane Large et les nombreuses émissions qu'elle a faites sur le thème, sur la petite lanterne, Radio RKB.
On se retrouve en janvier pour la prochaine émission du Pain et des Parpaings. D'ici là, entourez-vous bien et rendez-vous en 2025 pour qu'on se requinque.
Salut.
Salut. Salut. Salut. Ciao, bisous.